Écoutez, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nous allons essayer de vous instruire et peut-être aussi de vous distraire un peu par nos interventions. Ce sera d'abord l'intervention de Véronique Boudon-Milot, qui est directrice de recherche au CNRS. Directrice du laboratoire médecine grecque et directrice aussi de la grande UMR de Paris, CNRS, Sorbonne, Orient et Méditerranée. Elle vous parlera, je crois que c'est indiqué, pourquoi lire la littérature technique antique aujourd'hui. Mon confrère Jean-Louis Ferrari, qui est président d'honneur de du congrès de la FIEC, parce qu'il est président de actuel de l'association Guillaume Budé, interviendra ensuite sur un tableau retraçant ce qui a pu se passer pendant un siècle. Et j'interviendrai pour finir. Vous savez que la rhétorique, selon Platon dans le Phèdre, consiste d'abord à connaître son public avant d'intervenir. Et comme nous sommes à Bordeaux, j'essaierai de vous montrer en quoi les Bordelais ont contribué largement à la formation de la collection des universités de France qui va bientôt avoir un siècle. La parole est à Véronique Boudon-Milot.
Bien, merci. Donc, j'ai choisi de commencer par une question que vous avez là. Que peut nous apporter la littérature technique antique aujourd'hui? En effet, face aux progrès fulgurants accomplis par la science moderne, à quoi bon continuer de lire les auteurs antiques? Et quel intérêt en particulier peut bien avoir encore la lecture des géographes depuis la découverte de l'Amérique, celle des mathématiciens, des physiciens, astronomes et géomètres grecs après l'invention de l'algèbre, de la physique quantique et l'émergence des géométries non euclidiennes. Sans parler des écrits médicaux hippocratiques et galéniques qui ont ignoré la circulation du sang et expliqué toutes les maladies par un dérèglement de quatre humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire. Eh bien, à cette question, me semble-t-il, une seule réponse possible. Il faut lire les textes techniques parce que, à leur manière, ce sont eux qui, aujourd'hui encore, nous parlent peut-être le plus directement de l'homme et de l'humain, de ses interrogations et de ses efforts pour apporter des réponses aux grandes questions posées par la contemplation de l'univers et affronter l'insondable mystère de la condition humaine. Mais avant de développer cet aspect finalement très concret et donc profondément humain, pour ne pas dire humaniste, de la littérature technique, et avant même d'illustrer mon propos par le choix de quelques exemples, je voudrais m'arrêter sur cette notion que je viens d'évoquer, sans l'avoir définie, de littérature technique. La littérature technique, pour peu qu'on s'y attarde, apparaît beaucoup plus difficile à définir qu'il y paraît. Et il me faut saluer la prudence de notre président, Jean-Louis Ferrari, qui, dans les Miscellanées, ce petit recueil très spirituel publié, il est vrai, hors commerce en 2009 pour célébrer les 90 ans de la fondation de la Société d'édition des belles-lettres, mais dont je vous recommande très vivement la lecture, parle de textes dits, entre guillemets, techniques. De fait, l'expression n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Et si l'adjectif mérite d'être pris avec précaution, le terme même de texte, cette fois-ci, devrait lui aussi être mis entre guillemets. Tant il est vrai que certains historiens, et anthropologues ont récemment évoqué la possibilité de, toujours des guillemets, lire certaines productions techniques, à l'instar des textiles, par exemple, comme des textes. Pour éviter toute confusion, on préférera donc l'expression littérature technique, puisque c'est bien de texte et d'écriture qu'il s'agit. Je repose donc la question, qu'est-ce qu'une littérature technique ? Si l'on en croit les manuels et les histoires de la littérature, qui ne lui accordent en général qu'une page ou deux sur plusieurs centaines, la littérature technique s'oppose à la littérature tout court. Jacqueline de Romilly, dans l'introduction de son précis de littérature grecque, paru pour la première fois en 1980 et toujours utile, a bien résumé la difficulté rencontrée pour ordonner une telle matière. En spécialiste de Thucydide, particulièrement sensible au mouvement de l'histoire, elle n'hésite pas à déclarer « Le rythme qui entraîne la littérature grecque est celui de l'histoire ». Et elle ajoute que cette littérature commence avec l'épopée homérique. Il y aurait donc d'abord eu une littérature archaïque, 7e, 6e siècle, une littérature classique, siècle de Périclès et de Platon, une littérature alexandrine, après la mort d'Alexandre, puis une littérature d'époque romaine et plus tard byzantine. Mais à cet ordre chronologique s'oppose un autre ordre que Jacqueline de Romilly qualifie de « logique » et qui doit permettre, je cite, « de suivre l'histoire intérieure d'un genre ». Car, ajoute-t-elle, « tragédie, comédie, traité philosophique, œuvre d'histoire s'élaborent dans un même temps ». Avant de finalement s'interroger, je cite, « pourquoi est-il si difficile de ranger les auteurs grecs dans un ordre qui soit satisfaisant ?» Et elle conclut, « pour connaître une littérature, le seul moyen est de la lire. » Et oserais-je ajouter, « de l'étudier ». Or, la littérature technique n'est pas seulement la parente pauvre des histoires de la littérature. Elle l'est aussi des programmes d'enseignement. Même s'il faut saluer son entrée remarquée au début des années 2000 dans les manuels du secondaire. Malgré cette évolution récente, les concours d'agrégation et de CAPES continuent de réserver une portion congrue à cette littérature technique, puisque la seule et unique fois, en 1975, où un traité hippocratique eut les honneurs d'une version d'agrégation avec un texte sur la méthode tiré du chapitre 20 de l'ancienne médecine, Jacques Joanna était membre du jury. Et on peut légitimement penser qu'il y était peut-être pour quelque chose. Il faut donc saluer l'esprit véritablement pionnier des belles-lettres qui, dès 1920, c'est-à-dire dès la première année d'existence de la CUF, inscrivirent à leur catalogue le De Rerum Natura de Lucrèce par Alfred Ernoux, mais seulement en 1967, année pré-révolutionnaire, il est vrai, un premier titre hippocratique. Pour en revenir à la nature et au contenu de cette littérature dite technique, que je sais, je n'ai pas encore vraiment définie, peut-être serait-il plus facile d'approcher ce qu'elle n'est pas. Ni tragédie, ni comédie, la littérature technique emprunte cependant parfois la forme de la poésie. Mais la littérature technique, c'est aussi l'histoire et la rhétorique, la dialectique et la grammaire, sans oublier la musique. Qu'en auraient pensé les Grecs ? Le double sens revêtu par le mot grec « techné », à la fois art et science, sur lequel est formé notre adjectif « technique », reflète bien l'ambiguïté, l'amphibologia, dirait le médecin galien, attachée à la notion. De ce point de vue, la distinction introduite entre arts libéraux et non libéraux ne pourrait-elle nous aider à définir la littérature technique ? Parmi les nombreuses classifications des arts que l'Antiquité a connues, celles conjuguant les trois arts du trivium, géométrie, grammaire, dialectique et rhétorique, est resté avec les quatre arts du quadrivium, géométrie, arithmétique, astronomie, musique, est restée la plus célèbre. Mais un esprit moderne pourra légitimement s'étonner de certains manques, et en particulier de l'absence de la médecine. Il ne sera pas le seul. Le médecin grec, Galien de Pergame, auquel j'ai déjà fait allusion, tentera même, au IIe siècle de notre ère, de donner ses lettres de noblesse à cette discipline fondée par son illustre prédécesseur, Hippocrate, en proposant un nouveau classement des arts où la médecine occupe la première place. À la fin de son exhortation à l'étude de la médecine, Galien propose en effet un classement entre arts nobles, qui appartiennent au domaine de la raison, dia logou, et arts mécaniques et manuels, qui impliquent des peines physiques, dia ton tou somatos ponon, et qui, de ce fait, sont plus méprisables à ses yeux. Dans la première catégorie, on trouvera sans surprise, occupant la première place, la médecine, suivie de la rhétorique, la musique, la géométrie et l'arithmétique, puis la dialectique, l'astronomie, la grammaire et l'art de légiférer. Et éventuellement, si l'on veut aussi, concède Galien, la sculpture et la peinture, dans la mesure où ces arts requièrent certes une certaine force physique pour les exercer, mais qui n'a rien de celle d'un jeune homme. L'idée galénique étant que l'on puisse pratiquer l'art auquel on s'est formé tout au long de sa vie, jusque dans la plus extrême vieillesse. Et parmi ces arts, il convient évidemment de choisir celui qui, aux yeux de Galien, l'emporte sur tous les autres, la médecine. Les anciens eux-mêmes, on le voit, n'auraient donc pas été d'accord si on leur avait demandé de définir ce qu'étaient les arts, les technaï, et sans doute encore moins ce qu'était la littérature technique. Tant il est vrai que l'homme grec cultivé, mais aussi romain, possédait dans sa bibliothèque et lisait tous ses textes qui faisaient partie de la formation du Pépaïdoménos, de l'homme ayant reçu une bonne éducation. Si l'on prend donc à présent cette expression de littérature technique dans un sens très large, pour l'opposer cette fois à tout ce qui n'est pas proprement classique, il faut saluer là encore l'ouverture de la CUF qui sut très tôt l'accueillir en son sein. Car si la série grecque de la CUF a classiquement débuté par Platon, premier auteur publié en 1920, avec le tome 1 des œuvres complètes, qui contient 5 dialogues de jeunesse édités et traduits par Maurice Croisé. C'est le De Rerum Natura de Lucrèce, je l'ai dit, par Alfred Ernoux, qui inaugure la même année la série latine. La littérature technique faisant son entrée par le biais de la poésie savante. Après des débuts difficiles et la crise des années 1930, après l'immense travail accompli sous la direction de Paul Mazon, à partir du milieu des années 50, sous la direction d'Alphonse Dain, une période de maturité et une ère nouvelle s'ouvrent pour la collection. Comme l'écrit Jacques Joannat, je cite, « Après l'ère Mazon, Alphonse Dain et ses successeurs élargirent considérablement le camp des textes à éditer et à traduire, et ont procédé à un rééquilibrage dans le temps et dans les genres. La nouveauté la plus notable, aussi bien en latin qu'en grec, est l'apparition de la littérature technique, prise au sens le plus large, de l'arithmétique à la géométrie, de l'astronomie à la géographie et à la botanique, de l'alchimie à la tactique. La médecine commence aussi à obtenir la place qu'elle mérite avec la publication, grâce à l'initiative de Fernand Robert, à partir de 1967, d'Hippocrate. Puis de Soranos, à partir de 1988, et de Galien, à l'aube du XXIe siècle, en 2002. Fin de citation. Je précise juste que ce premier tome de Galien est en réalité paru en 2000 et non en 2002, comme ne permet pas immédiatement de l'apercevoir la réimpression du volume dans la CUF après l'incendie. Une petite différence de 2 ans, me direz-vous, mais qui a son importance puisqu'elle permet de dater l'entrée de Galien dans la collection non pas à l'aube du XXIe siècle, mais à l'extrême fin du XXe. Et cette place de choix, occupée aujourd'hui par les médecins et les pharmacologues, avec un total de 26 volumes parus, dont 13 pour Hippocrate, 7 pour Galien, 4 pour Soranos et 2 pour Nicandre, la médecine, qui vient en tête pour le nombre des volumes parus, la dispute sans peine à l'agriculture et à la botanique, 16 volumes, l'architecture, 3, l'art militaire, 5, l'astrologie et l'astronomie, 11, la géographie, 21, la musique et la chasse, 1 chacun, la physique et les mathématiques, 17, la rhétorique, 16, dont 5 pour le seul corpus rhetoricum, et la zoologie, 9. Si l'on tente à présent de replacer la littérature technique dans le paysage de l'édition internationale, on constate que la CUF occupe là encore une place de tout premier plan. La circulaire de présentation du projet Budé, à l'origine de la création de l'association Guillaume Budé, datée du 24 février 1917, mentionne déjà, je cite, « ces collections étrangères bien connues, dans lesquelles on reconnaîtra notamment la Bibliotheca Taubneriana, dont le premier volume paru en 1849, mais aussi, pour la médecine grecque, le CMG, le Corpus Medicorum Graecorum, et son équivalent latin, le CML, le Corpus Medicorum Latinorum. Un projet qui prit son essor à Berlin à partir de 1905, après avoir en réalité pris forme à Paris en 1901, lors d'une rencontre entre Hermann Diels et l'érudit danois Johan Ludwig Heiberg lors du congrès de l'Association internationale des académies. Comme quoi les congrès facilitent les rencontres. L'histoire conflictuelle des deux pays, en cette période qui restera connue de la postérité comme celle de l'entre-deux-guerres, ne contribua pas pour une mince part à attiser et nourrir la rivalité scientifique des médecins et des philologues. L'érudit allemand Hermann Diels n'écrivait-il pas en 1921 à propos du premier Budé latin, le De Natura ? Je cite « Une chance que nous n'avons pas besoin d'acheter cette édition française qui coûte en Allemagne plus de 100 Deutschmark. Elle est sans valeur pour les étudiants et les savants allemands. » La science française n'a pourtant pas à rougir, me semble-t-il, du travail accompli par les médecins et philologues français, et ce, dès la première moitié du XIXe siècle. Car en France, comme en Allemagne, les textes médicaux grecs sont d'abord édités par des médecins pour des médecins. Certes, Karl Gottlob Kühn, professeur de physiologie et pathologie à l'université de Leipzig, édite Hippocrate, Arete et Dioscoride, et surtout de 1821 à 1833, tout galien, mais en réalité en recopiant l'édition du médecin parisien René Chartier, comme l'a mis en lumière un colloque récent. Et à Paris, pendant ce temps, un autre médecin, Émile Littré, même s'il n'a jamais soutenu sa thèse de médecine, publie en 1839 le premier tome des œuvres d'Hippocrate et, à la génération suivante, Charles d'Arembert, médecin lui aussi, lui dédicace le premier volume de son Oribase, paru en 1851. Mais alors que les premiers volumes du CMG, comme déjà l'édition de Kühn, seront publiés sans traduction ou avec seulement une traduction latine, la philologie française, d'abord avec Littré puis avec d'Arembert, fait le choix de publier des traductions françaises. Un choix dont l'avenir démontra qu'il fut le bon, même s'il ne fut pas sans susciter quelques débats. En effet, avant que d'Arembert ne se lance dans son ambitieux projet d'une bibliothèque des médecins grecs et latins, le ministère de l'Instruction publique et des cultes demanda l'avis de l'Académie de médecine et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui toutes deux recommandèrent que pour chaque ouvrage soient utilisés les meilleurs manuscrits, édités le meilleur texte et préparés de nouvelles traductions, mais sans préciser la langue à choisir pour la traduction. En mars 1847, d'Arembert écrit à son ami anglais Greenhill qu'il a parfois pensé à une traduction latine, mais qu'il y voit bien des inconvénients, vu que ceux qui utiliseront ces ouvrages savent le français et comprennent plus ou moins le grec. Vu aussi que les traductions en langue moderne sont plus sûres et les passages difficiles mieux traités que dans une langue morte, surtout en cette langue latine qui permet si bien de se payer de mots. Mais bientôt, coup de théâtre, Le rapport préparé par l'Académie de médecine, publié un peu plus tard, souhaite le latin, langage universel, ou en tout cas langage qu'utilisent tous les érudits. Quand les érudits errent, il appartient aux éditeurs de leur montrer la voie. De fait, les deux maisons d'édition qui s'étaient lancées dans l'entreprise, celles de Masson et de Bayer, estimant qu'elles auront du mal à vendre du grec traduit en latin, n'acceptent pas de publier la collection, seulement si les traductions se font en français, ce qui fut fait. Le premier volume d'Oribas parut en 1851 avec une traduction française et deux volumes de traduction de Galien, mais sans texte grec, ont suivi en 1954 et 1956. Or, aujourd'hui encore, beaucoup de ces textes réputés difficiles, et qui pour certains le sont réellement, manquent cruellement de traduction. Je pense à Galien, dont à peine 10% des traités sont traduits dans une langue moderne. On ne peut donc que louer l'entreprise d'édition des médecins grecs menée dans la CUF, et l'effort poursuivi depuis près d'une cinquantaine d'années pour mettre à disposition du public cultivé, helléniste et non-helléniste, l'essentiel de la littérature médicale antique. Si le Corpus Medicorum Graecorum a fait tardivement le choix des langues modernes pour la notice de ses éditions et la traduction du texte grec, la dernière notice en latin date de 1991 dans cette collection, la CUF, comme il a été dit plus haut, a dès l'origine fait le choix pionnier des traductions françaises. Et elle affiche depuis sa création une belle unité de langue dont est dépourvu le CMG, qui a publié aussi bien en allemand, c'est naturel, qu'en anglais ou en italien, et même audace suprême en français, avec La nature de l'homme d'Hippocrate, édité par Jacques Joanna en 1975 et réédité en 2002. Si la CUF a donc toujours été sensible à la nécessité de traduire et d'éditer les textes antiques, tous les textes antiques, même ceux réputés les plus difficiles, même ceux laissés en jachère depuis le 19e siècle, elle a su aussi se distinguer d'autres collections, et je pense ici en particulier aux éditions Leub, en accordant constamment aux notes qui accompagnent le texte la place fondamentale qui est la leur, pour notamment préciser le sens des termes techniques dont la méconnaissance égare trop facilement le lecteur moderne. Plus fondamentalement, tout au long de son histoire et peut-être plus encore depuis ce début du XXIe siècle, la CUF, en la personne de sa directrice générale, Caroline Noirot, et de son responsable de la Syrie grecque, a su s'emparer avec enthousiasme, rapidité et efficacité de textes qui, comme le traité galénique Ne pas se chagriner, réputé entièrement perdu en grec comme en arabe ou en latin, et miraculeusement retrouvés, ont fait l'objet de grandes et belles découvertes récentes. Dans de tels cas, certes exceptionnels, où l'importance de la découverte exige l'urgence de la publication, c'est un des principaux mérites d'une grande collection comme la CUF que de s'être aussi rapidement saisie de ce nouveau texte pour l'accueillir au prix d'une collaboration active et efficace de chacun des acteurs, des éditeurs aux imprimeurs, dans les plus brefs délais à l'intérieur de la collection. Une gageure qui n'aurait pu être tenue sans la réactivité de la directrice des belles-lettres, sa sensibilité et son ouverture aux enjeux scientifiques internationaux majeurs. Mais, au-delà de cet exemple, ce qui est vrai du Ne pas se chagriner l'est également, bien que dans une moindre mesure, des éditions récentes de médecins, qui ne sont pas de simples rééditions corrigées avec d'éventuels compléments bibliographiques, mais qui rassemblent des textes dont la tradition manuscrite, pour la plupart, n'a jamais fait l'objet d'une recherche correspondant aux exigences actuelles de la science exotique, renouvelant ainsi bien souvent de façon fondamentale notre connaissance de cette littérature mal transmise et peu ou pas du tout traduite. La traduction française de la CUF, toujours dans le cas de Galien, étant bien souvent la première. Cette réussite, qui est une réussite française, qu'on me permette de le rappeler, est aussi le résultat du dévouement, de la disponibilité et bien sûr de la compétence de nombreux collègues français et étrangers qui, au sein de l'équipe internationale médecine grecque, de l'UMR du CNRS Orient et Méditerranée, collaborent depuis 1981, date de sa création à Strasbourg par Jacques Joanna, et sans discontinuer à la grande entreprise de la CUF. mais j'ai fait une promesse en commençant que je ne saurais oublier. Vous prouvez pourquoi, aujourd'hui encore, il faut lire les textes techniques antiques. Voici donc quelques conseils de lecture pour finir, en forme de petites listes de titres, non exhaustives, comme en donnent les professeurs à leurs élèves avant la rentrée, après tout, nous n'en sommes pas si loin, en espérant éveiller leur goût pour une matière dont ils auront ensuite toute liberté d'explorer par eux-mêmes les richesses. Car la lecture de cette littérature technique n'a rien de rébarbatif ni d'abstrait. Indispensable à notre connaissance du monde antique, elle nous permet de pénétrer dans l'intimité de l'homme grec, pour explorer son rapport à la maladie et à la mort. Mais elle nous introduit aussi aux gestes de sa vie quotidienne, aux rapports homme-femme, aux secrets de son hygiène et de son alimentation, de sa cuisine avec de nombreuses recettes, à ses goûts en matière de vin, nous sommes à Bordeaux, de parfums et de cosmétiques, à sa pratique du sport. Et elle nous renseigne aussi sur ses normes esthétiques, son idée du beau et du corps idéal. Ainsi, c'est en lisant Hippocrate que vous apprendrez, dans le traité des maladies 4, pourquoi on meurt les jours impairs. Dans Génération nature de l'enfant, pourquoi les enfants mâles sont conçus dans la partie droite de la matrice et les filles à gauche. Dans le fœtus de 7 mois, pourquoi les fœtus qui naissent à ce terme ont, contre toute attente, plus de chances de survivre que les fœtus de 8 mois. Et dans le traité des plaies, pourquoi les plaies circulaires guérissent plus difficilement. Et c'est également dans le traité d'hygiène et dans l'exhortation à l'étude de la médecine de Galien que vous apprendrez pourquoi, finalement, le sport n'est pas bon du tout pour la santé. Dans l'économique, pourquoi Xénophon serait bien incapable de chérir sa femme si elle était trop fardée. Et encore, dans l'exhortation à l'étude de la médecine, pourquoi Galien préfère le naturel de la courtisane Phrynée au teint de Céruse et d'Ancuse des autres femmes. Dans l'éloge de la calvitie, vous apprendrez pourquoi, aux yeux de Synésius de Cyrène, je cite, « le chauve serait le plus divin des êtres de cette terre. » Quand pour Galien, dans l'utilité des parties du corps, il convient de combattre cette disgrâce de la nature par tous les moyens. Et dans l'institution oratoire, à propos des châtiments corporels, pourquoi, selon l'auteur latin Quintilien, il ne faut frapper ni les élèves, ni, selon le grec galien, les esclaves. Mais surtout, vous verrez l'homme antique poser un regard rationnel sur les maladies et enseigner avec Hippocrate que l'épilepsie n'a pas d'origine plus divine que toutes les autres maladies. Vous assisterez à l'interrogatoire du malade par le médecin et à l'établissement d'un dialogue respectueux au centre même de la relation malade-médecin. Vous apprendrez avec Galien que la raison, le logos et le raisonnement, logismos, avec l'expérience Peyra, doivent être la base et les premiers fondements de toute méthodos médicale rationnelle. Et vous découvrirez que le médecin hippocratique doit, dans certains cas, accepter de réserver son geste et limiter son intervention dans le souci constant, je cite, d'être utile et de ne pas nuire, quand le médecin galénique, pour sa part, doit accepter de suspendre son jugement et refuser de se prononcer sur la question de savoir si nous avons une âme, si elle est mortelle ou immortelle, et quelle est la nature du démiurge qui a formé le monde. Car cette littérature technique, et c'est là sa vraie richesse, me semble-t-il, aborde non seulement tous les thèmes de la littérature antique, art, philosophie, histoire, comédie, tragédie, mais en mettant l'homme antique au centre même de ses préoccupations, en approchant au plus près de ses fragilités, en évoquant aussi bien ses défaites, ses peurs et ses peines que ses consolations et ses joies, par-delà plus de 2 millénaires d'histoire, elle continue d'entretenir un dialogue permanent avec l'homme d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cet éloge de la littérature technique et j'espère que vous avez pu vous apercevoir de sa variété et de sa richesse. Et cela grâce justement à des collections internationales comme le Corpus Medicorum Grecorum ou des collections nationales comme la collection des universités de France. Je passe maintenant la parole au à celui qui est le directeur de la collection des universités de France, série latine, Jean-Louis Ferrari.
Merci, et je parlerai un peu globalement de la collection, en mettant surtout l'accent sur des exemples latins. Je ferai quelques remarques sur les principes de la collection. Quant à l'origine, Jacques Joinat, qui a fait des découvertes majeures en ce domaine, vous en parlera en troisième intervention et montrera en particulier le rôle des Bordelais. Puis, des réflexions sur le développement de la collection, dans pratiquement un siècle d'histoire déjà. Et enfin, je me poserai deux questions. Peut-on envisager de publier dans une collection comme la collection des universités de France tous les textes latins ou grecs? Et comment faire pour mettre le travail des éditeurs au service de publics dont la diversité est de plus en plus évidente? Les principes de la collection, tout d'abord. Il me semble que les choix les plus significatifs, je partirai vraiment de la présentation du volume, sont les suivants. D'une part, l'existence d'une traduction française, mais qui laisse le texte grec ou le texte latin sur ce qu'on appelle la belle page, sur la page de droite, qui est également la page de titre ou la page avec laquelle on commence un chapitre et qui est celle sur laquelle l'œil se porte en priorité. Deuxièmement, le principe de nouvelles collations des manuscrits principaux qui exigent donc que les principaux témoignages de l'histoire du texte soient réexaminés. Et puis le troisième point qui me paraît également intéressant, c'est celui du format. Ce format in octavo, qui est à la fois un format maniable, sans être à proprement parler un format de poche, et sans être plus forte raison le format quarto ou folio des grandes éditions, nous le verrons, qui se sont longuement prolongées jusqu'au XIXe siècle. Alors voyons d'abord le choix de la traduction française et la répartition du texte entre texte grec ou latin sur la belle page et traduction française sur la page de gauche. Dans l'exposé que vient de faire Véronique Boudon, elle a très justement souligné le fait que le principe de la traduction française avait déjà été précédemment adopté dans le cas précis des éditions des Médecins grecs. Il y a des précédents, il y en a également pour d'autres collections de textes grecs et latins parus en France. Reste quand même que si l'on considère la littérature antique en général, la dernière grande collection en France antérieure à la CUF me semble avoir été la collection Dido. Collection essentiellement de textes grecs, avec deux différences très marquées, le choix d'une traduction latine du grec et le choix d'un format in quarto. Mais il faut bien voir en même temps que si ces volumes sont imprimés à Paris par Dido, ce sont des volumes qui sont une espèce de greffe de la tradition philologique allemande, qui sont souvent d'ailleurs dus à d'éminents philologues allemands, et que finalement ce double choix de la traduction latine des textes grecs et de volumes imposants, même si entre-temps on est passé du folio au quarto, c'est un choix qui remonte à l'édition baloise du XVIe siècle, par opposition à l'édition vénitienne ou florentine légèrement antérieure. En revanche, on ne peut pas dire qu'à part des exceptions, comme celle qu'a mentionnée Véronique Bouton. Les autres collections françaises, la collection Lemaire, la collection Nisard, quels qu'étaient leurs mérites au XIXe siècle, se soient imposées comme de grandes éditions scientifiques internationales. D'autre part, il est intéressant de comparer, me semble-t-il, à propos du choix de la traduction, la collection des universités de France et le Classical Library, qui la précède de peu, puisqu'elle est fondée en 1911 par James Loeb. James Loeb est un personnage extrêmement intéressant. C'est un Américain, mais d'ascendance allemande, qui s'établit assez tôt en Allemagne et qui laisse deux legs, là le Classical Library qui est confié à l'université de Harvard et une très belle collection personnelle d'antiquités qui est abritée par l'Antique Sammlung du musée de Munich. Et il y a, à propos de la création de la collection Loeb, une correspondance tout à fait intéressante entre Loeb et celui qui était le plus grand des philologues allemands de l'époque, Wilamowitz. Wilamowitz qui, dans un premier temps, n'hésite pas à exprimer de très fortes réserves à propos du choix d'accompagner les textes grecs de traduction en anglais. Ces réserves sont de nature, en fait. La première, c'est une crainte. C'est la crainte que, à partir du moment où on se mettra à lire les traductions dans des langues modernes des textes grecs, on cesse de lire le grec. Et là, je crains que Wilamowitz ait eu bien tort. Et que s'il n'y avait pas eu des choix comme ceux qui ont été faits de textes grecs ou latins accompagnés de traductions, la situation actuelle ne soit encore beaucoup plus dramatique qu'elle ne peut l'être. La deuxième objection de Wilamowitz, c'est qu'il y a des textes pour lesquels on peut envisager des traductions, les grands textes. Mais enfin, dit Wilamowitz, quelle idée de vouloir donner une traduction anglaise d'Athénée. De deux choses l'une, ou on sait le grec, et dans ce cas-là, on lit Athénée, ou on ne sait pas le grec, et de toute façon, on ne va pas s'intéresser à Athénée. Moyennant quoi, fort heureusement, il y a eu la traduction anglaise d'Athénée, il y a eu une traduction italienne beaucoup plus récente sous la direction de Luciano Canfora, et puis j'espère que la collection des universités de France va reprendre une traduction d'Athénée qui a été trop tôt interrompue. Cette correspondance est tout à fait intéressante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le lien extrêmement différent entre la collection Teubner et la collection Loeb d'un côté, la collection Teubner et la collection des universités de France de l'autre. La collection Loeb reprend dans ses premiers volumes les textes de l'édition Teubner, presque constamment, avec un apparat critique extrêmement réduit et en apportant, en revanche, une traduction anglaise et un certain nombre de notes qui la rendent intelligible. Le choix même de la bibliothèque Teubneriana n'est pas totalement innocent. Elle-même avait été une espèce, me semble-t-il, de révolution. Parce que, avec la bibliothèque Teubneriana, on a le passage à la petite édition très maniable des textes classiques. Les deux grands éditeurs allemands de textes classiques à cette époque sont Teubner et Weidmann. Teubner à Leipzig et Weidmann à Berne. Weidmann reste fidèle, sinon au quarto, parfois au quarto, en tout cas au grand octavo, alors que Teubner, on est carrément dans l'in 12, dans le format qu'on pourrait qualifier pratiquement de format de poche. Et Teubner s'impose, me semble-t-il, à la fois par ce format, par le fait qu'il s'agisse d'une collection, ce que n'est pas Weinmann. Weinmann est un éditeur qui édite des textes, mais qui n'a pas une collection Weinmann. Et par le fait aussi que le nombre de textes augmente, les textes publiés augmentent de façon extraordinaire entre 1849 et la fin du XIXe siècle. Il n'empêche qu'il y a deux différences fondamentales entre la CUF et la Le Classical Library. La première, c'est, et c'est naturellement lié au contexte, Loeb est un Américain d'origine germanique, profondément imprégné de culture germanique, qui vit finalement plus souvent en Allemagne qu'aux États-Unis, qui n'a aucun problème avec la philologie germanique. Nous savons que, au contraire, la collection des universités de France est créée dans le contexte, Jacques Jonas va y revenir, dans le contexte de la guerre de 1914-1918, contre la domination des éditions allemandes des textes grecs et latins. Et donc une rupture avec lui Catomneriana qui n'existe absolument pas pour la collection. Mais il y a aussi une présentation différente. Il y a deux points qui sont de ce point de vue significatifs, me semble-t-il. Le premier, c'est le choix de la page qui reçoit le texte latin ou grec, et de la page qui reçoit la traduction. Je vous l'ai dit, dans la collection des universités de France, la belle page reçoit le texte grec ou latin. Dans la collection Loeb, c'est l'inverse. Dans la collection Loeb, l'accent est mis de ce fait sur la traduction, ce qui signifie que le savant aura vraisemblablement, on attend de lui qu'il ait à la fois les grandes éditions en grec ou en latin seul, et puis ces éditions de la Classical Library. Et puis il y a le format aussi, qui n'est pas le même. La Bibliothèque de Neriana, surtout avant de voir son format augmenter un peu, et maintenant elle est parfois in octavo, était un petit octavo ou un in 12. L'Aube, c'est un assez petit in 12. Alors que la collection de l'Université de France est un format qui correspond à une espèce de bibliothèque de l'honnête homme, me semble-t-il. C'est un problème sur lequel nous reviendrons à propos de la possible déclinaison des formes de la collection de l'Université de France. Le développement de la collection, deuxième point, je ferai simplement quelques remarques. Au début, l'accent est mis, et il n'y a là rien de surprenant, sur les auteurs classiques, c'est-à-dire entre Homère et Démosthène pour le grec, entre Cicéron et Apulée pour le latin. Il y a d'abord un développement chronologique, avec une prise en compte progressive de la littérature grecque d'époque hellénistique et impériale, et de la littérature latine, que l'on qualifiera de tardive, même si le terme ne convient pas et recouvre en fait des périodes extrêmement diverses. Alors là se pose naturellement le problème qui est intervenu ensuite, de la répartition en France des éditions entre les sources chrétiennes et la collection des universités de France en ce qui concerne les auteurs chrétiens. La collection des universités de France gardant une espèce de monopole pour les auteurs païens. En ce qui concerne, par exemple, le latin, il y a de grandes règles qui existent. Les textes poétiques, les correspondances, les textes les plus littéraires vont plutôt dans la CUF, alors que les commentaires aux Écritures, les sermons et les œuvres théologiques sont plutôt du domaine de sources chrétiennes. Et puis il y a parfois, naturellement, des accords qui se font, qui ne permettent pas de parler d'une frontière étanche, fort heureusement. Il faut replacer, me semble-t-il, cette évolution, non seulement dans un développement d'une collection qui voit le nombre de ses volumes augmenter, mais dans une conception générale qui change de la littérature grecque et de la littérature latine. Véronique Boudon a parlé de la littérature grecque de Jacqueline Romilly, dont nous saluons tous la qualité. Il reste que la littérature grecque de Jacqueline Romilly, dans sa définition des auteurs qui sont étudiés, reste celle des frères croisés, c'est-à-dire des fondateurs de la collection des universités, ceux qui comptent parmi les fondateurs de la collection des universités de France, la littérature grecque jusqu'à Démosthène, plus Plutarque, le Plutarque des vies, parce qu'il y a Amyot en France, et la littérature hellénistique et la littérature d'époque romaine sont quand même encore peu passés sous silence. Il y a incontestablement, si on considère les histoires des littératures grecques et latines, la découverte, vous pouvez dire véritablement la découverte, qu'il y a des périodes nouvelles qui ne sont pas simplement des périodes de déclin, alors toutes les formules que l'on connaît, la littérature de l'époque d'argent par opposition à l'âge d'or, etc., mais qui sont des périodes de très grandes et très riches littératures qui ont été un peu méprisées parfois. Le deuxième point, j'en parlerai à peine parce que Véronique Boudon en a parlé, c'est l'extension aux littératures techniques. Et là, ce n'est pas un hasard si le fait qu'il y ait eu à la tête de la série grecque quelqu'un comme Alphonse Daim, qui a été un éminent spécialiste de textes byzantins, de textes byzantins extrêmement techniques, stratégiques et autres, et à la tête de la section latine, Jacques André, qui lui aussi était intéressé à tout ce qui était description de la nature, ce sont les deux hommes, me semble-t-il, qui ont joué un rôle vraiment décisif dans cette évolution. Et je prendrai simplement un exemple latin, si vous voulez. Je pourrais parler de Pline l'Ancien parce que c'est plus que Lucrèce, Véronique Boudon me permettra de le dire. Lucrèce, je pense que quand Ernoux éditait Lucrèce, il n'avait pas l'impression d'éditer un texte technique. Et il avait l'impression d'éditer un très grand texte littéraire et philosophique, mais certainement pas un texte technique. Pline l'Ancien, l'encyclopédie de Pline l'Ancien, à laquelle se met Jacques André, qui est maintenant presque achevé, il manque encore quelques petits fragments des livres géographiques, et déjà quelque chose qui nous conduit dans le domaine latin à la littérature technique. Une édition qui est actuellement en cours, qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle montre bien, elle aussi, l'incapacité où nous sommes de distinguer littérature technique et littérature tout court dans bien des cas, c'est Marcianus Capella, qui est à la fois un auteur. Et c'est cet ouvrage qui sont les Noces de philologie et de Mercure, qui est un auteur extrêmement important parce qu'il est l'un des grands passeurs de l'Antiquité vers le Haut Moyen-Âge, comme Isidore de Séville un peu plus tard. Et puis, parce que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition fondamentalement littéraire, qui est celle la satire avec l'alternance des vers et de la prose, dans un cadre qui est un cadre narratif, qui est celui des Noces de philologie et de Mercure, et à l'intérieur duquel, cadre qui à lui seul occupe déjà les deux premiers livres, et à l'intérieur duquel il va y avoir ensuite un livre consacré à chacun des arts libéraux. Les sept livres concernant les sept arts libéraux, ce sont précisément ceux qu'a mentionné Véronique Boudon, les arts du trivium et du quadrivium. Alors, avec Marcianus Capella, nous avons une œuvre, en fait, qui est à la fois une œuvre majeure dans le passage de l'Antiquité, enfin, la transmission du savoir antique, d'un certain savoir antique vers le Haut Moyen-Âge, et nous avons une œuvre qui est à la fois une œuvre technique, qui est par exemple la seule qui nous donne un exposé complet de la musique pour l'Antiquité. Il y a d'autres œuvres sur la musique, mais Aucun n'est à la complétude du livre neuf de Marcianus Capella et qui est en même temps une œuvre pleinement littéraire. Le dernier point, c'est l'évolution, c'est le développement de l'appareil de notes qui sont très limités au début, qui augmentent. Et qui augmente pour des raisons diverses, certaines qui sont tout simplement dues au fait que nombre d'éditions sont issues de thèses, et même si les éditeurs ont très profondément retravaillé, car aucune édition des Belles-Lettres n'est une thèse telle qu'elle a été soutenue, on est très loin. Il reste que les deux directeurs des deux séries ont du mal à les contraindre, parfois à se limiter dans une volonté pratiquement sans limite de multiplier les notes. Mais il y a aussi un autre aspect qui est tout simplement le fait que des notes qui n'étaient pas nécessaires, qui ne paraissaient pas nécessaires dans les années 1920, sont devenues nécessaires parce que ces textes de l'Antiquité classique, malgré tout, n'ont plus la même proximité avec le lecteur moderne et qu'on doit aider le lecteur, alors pas le collègue, pas le lecteur collègue, mais le lecteur plus jeune ou les lecteurs honnêtes hommes, qu'on doit l'aider à véritablement comprendre le texte, d'où la nécessité d'augmenter les notes. Comme je l'ai dit, je voulais terminer sur deux interrogations. Est-ce que on peut publier dans une collection comme la collection des universités de France tous les textes latins et grecs? C'est une question qui, d'une certaine façon, ne reçoit pas de réponse. Il n'y a pas une seule collection, grande collection, qui, d'une part, n'est pas une espèce de prétention à sa capacité à accueillir tous les textes, mais qui, en même temps, ne fasse pas un certain nombre de choix. Certains choix sont, je dirais, d'une certaine façon inexplicables. Pourquoi est-ce que la collection Teubner n'a pas eu, à ma connaissance, d'édition de Dion de Prue, je ne crois pas. En tout cas, pas d'édition d'Elius Aristide. Ça, j'en suis sûr. Je ne crois pas qu'il y ait une explication autre que le fait que la tâche a peut-être été confiée à un érudit. Je ne sais pas, Laurent Pernaud saurait bien mieux que moi y répondre. Mais il y a eu l'exemple qui a été cité par Véronique Bouton de la collection des médecins grecs. C'est-à-dire que se crée à ce moment-là, et c'est là que, d'une certaine façon, se créent des corpus techniques qui risquent de s'isoler, a été créée une collection, sous la responsabilité de l'Académie de Berlin, de corpus des médecins grecs. Et on voit de la même façon en latin, les grammairiens constituer un corpus de sept gros volumes in quarto. Et la collection Teubner elle-même ne reprendre finalement que très peu de textes. Et on voit le problème des textes juridiques. Et je voudrais revenir sur ces deux exemples, sur l'exemple de Priscien et du Digeste. Ce sont deux auteurs de l'extrême fin, puisque nous sommes à Constantinople, sous Justinien, au VIe siècle. Et en même temps, avec Priscien, nous avons une espèce de somme de la grammaire latine, qui est l'accomplissement de la mise en place d'une syntaxe qui a sans doute des antécédents, mais qui ne trouve nulle part ailleurs une expression aussi achevée que chez Priscien. Quant au digeste, un certain nombre d'entre nous ont entendu Dario Mantovani. C'est une œuvre qui est une compilation d'extraits de juristes de l'époque classique. Alors, l'époque classique, pour les juristes, c'est essentiellement le deuxième siècle, enfin, la fin du premier siècle jusqu'au premier tiers du troisième siècle, qui a amputé ces textes d'un certain nombre d'éléments, mais qui est également le texte qui nous a conservé, malgré tout, le plus d'informations, à l'exception des instituts de Gaius, manuels de première année pour l'étudiant en droit, qui, fort heureusement, a été conservé par le Paname 16 de Vérone. Est-ce qu'on peut envisager d'accueillir le Priscien et d'accueillir le digeste dans une collection comme la CUF? Le problème est double. Le problème est celui de la difficulté de la traduction, qui est réelle, mais c'est un problème qui n'est pas insurmontable. La preuve, c'est qu'il y a une entreprise en cours de traduction de Priscien par un groupe équiparait chez Vrin en français, et qu'il y a des traductions dans de multiples langues modernes. Il y a une traduction française aussi, mais qui est un peu ancienne, du digeste. Il y a une traduction du digeste dans de multiples langues modernes. Donc l'impossibilité n'est pas là. Elle n'est pas non plus dans l'importance du nombre des volumes, après tout. C'est une question simplement de volonté et de temps. Elle est, me semble-t-il, dans une large mesure, dans la difficulté même de donner un texte. Le texte de Priscien est un texte qui, dans l'édition, la seule édition qui en existe actuellement, n'est pas satisfaisant, tout simplement parce qu'il y a un nombre, c'est un texte du VIe siècle, donc, qui a un nombre considérable de manuscrits très anciens. Et que ces manuscrits très anciens sont à la fois nombreux et en plus sont contaminés. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est à peu près impossible, en l'état actuel des choses, de faire un stemma de ces manuscrits. Le résultat est que toute réédition du texte de Priscien implique un énorme travail de collation. Et là, le professeur Nigel Wilson en parlait, c'est peut-être un des cas où il faudrait renoncer à la collation systématique et essayer de trouver une solution vers des collations limitées à un certain nombre de passages particulièrement difficiles. Mais il est certain qu'en l'état actuel des choses, il n'y a personne qui soit prêt à fournir un nouveau texte de Priscien. Et le texte du digeste, d'une certaine façon, c'est encore pire. Dario Mantovani avait organisé à Madrid, il y a quelques mois, une journée sur l'histoire du digeste. C'est une chose en apparence simple, un manuscrit du VIe siècle, presque contemporain de la compilation justinienne, et puis toute une série de manuscrits médiévaux. L'ennui, c'est que pour la première partie du digeste, en tout cas, il est certain maintenant qu'un certain nombre des manuscrits médiévaux remontent à un hyparchétype vraisemblablement de qualité supérieure aux manuscrits du VIe siècle, aux manuscrits au Brindect de Florence, et que l'édition sur laquelle nous nous fondons, l'édition de Mommsen, qui a d'immenses qualités, est en même temps une édition qui susciterait, me semble-t-il, pourrait susciter paroles irritées de la part d'un certain nombre de spécialistes, parce que c'est une édition qui hésite entre l'édition diplomatique d'un manuscrit, les Pandectes de Florence, et l'édition critique d'un texte, sans vraiment faire des choix décisifs et avec quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire des proposition de correction que Mommsen prend à son compte, mais qui ne l'introduit pas dans le texte, qui l'introduit dans un premier étage d'apparat. On a là quelque chose qui est une particularité. Donc, je pense qu'il y a des textes pour le moment qui échappent à la capacité que nous avons de les introduire. Dernier point, très rapidement. Il y a manifestement une diversification du public qu'intéressent les textes classiques. L'honnête homme qui existait encore comme une espèce d'idéal au début du XXe siècle, eh bien maintenant il n'a pas disparu, mais il y a en fait des besoins qui sont divers. Si bien que la politique actuellement poursuivie par les belles-lettres, c'est de faire de la collection des universités de France le texte de base d'une série de déclinaisons de forme éditoriale. Les volumes jaunes et rouges restent dans leur état traditionnel et restent le texte de référence. À côté de ça, il y a pour les étudiants ou les moins fortunés, les classiques en poche, qui sont directement issus de nos collections, qui permettent d'avoir un texte, une partie souvent d'un volume de la CUF à un prix plus accessible. Et puis, il y a une entreprise qui va voir le jour bientôt, avec un exemple, nous avons choisi, Caroline Noirot et moi, de faire un volume de Vitruve, qui contiendra l'ensemble du texte sans apparat, l'ensemble de la traduction, des notes justifiant dans les points les plus difficiles le texte adopté, et une grosse introduction. L'ensemble de l'entreprise étant confié à Pierre Gros, qui est ici. Et j'espère très profondément que cette tentative sera un succès, parce que c'est une autre forme de reprise des textes de la collection des universités de France qui serait possible et qui évitera la situation où nous le faisons piller aux trois quarts par la Pléiade. Ben oui, disons-le franchement, qui propose une traduction quand même fondamentalement d'après le texte de notre collection et qui s'en inspire plus ou moins comme le Pline l'Ancien qui vient de sortir. Voilà, j'ai essayé de vous présenter rapidement un tableau d'un siècle de CUF.
Merci beaucoup Jean-Louis Ferrari pour toutes ces réflexions qui pourront susciter des discussions, mais nous n'allons pas parler des autres collections françaises qui ont également leur grande qualité. Je voudrais vous présenter maintenant, pour terminer, un point d'histoire fort important de cette collection des universités de France. Une allusion à sa genèse et aussi à sa proto-histoire. Nous allons nous retrouver dans les années 1916-1917. Les mythes ont la vie dure parce qu'ils sont séduisants. Dans le site des Belles Lettres, présentant la collection des universités de France, plus communément dite collection Budet, on lit une belle histoire qui n'a rien d'historique. Je cite « Lorsque le grand linguiste Joseph Vindriès est appelé au combat, il souhaite emporter avec lui l'Iliade, texte matriciel de notre civilisation. Compagnon d'armes tout désigné, puisque le poème est consacré à la 10e année de la guerre qui opposa les Troyens à la coalition achéenne. Malheureusement, de l'épopée d'Homère, il n'existait plus à cette époque, parmi les éditions savantes, que des éditions allemandes, fort honorables, mais fort peu patriotiques sur les lignes françaises. Vindriès se serait alors promis, s'il survivait, de créer une collection d'éditions savantes françaises. C'est ainsi que l'idée de la collection des universités de France jaillit des affres de 1914-1918, fin de citation. Certes, Vindriès, professeur de linguistique à l'École pratique des hautes études et à la faculté des lettres de l'Université de Paris, ne fut pas totalement étranger à la formation de l'association Guillaume Budet, car il fut l'un des 45 membres du premier conseil d'administration, élu le 8 juillet 1917. Mais il n'exerça aucun rôle majeur, ni dans la conception, ni dans la formation de la collection des universités de France. Mon propos est de présenter les dernières informations dont nous disposons sur la genèse de la collection Budet, grâce à la redécouverte dans les archives de deux lots de lettres importants datant des années 1916-1917 qui sont en relation directe avec la naissance de la collection. Voici l'histoire de la collection telle qu'on pouvait l'établir avant la redécouverte des lettres. Elle comprend trois actes. Premier acte, la fondation de l'association Guillaume Budet. Fondée en juillet 1917, dans les conditions difficiles de la Première Guerre mondiale, par une cohorte résolue de philologues français dont la majorité furent membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'association Guillaume Budet avait pour but, comme l'indique l'article 1 de ses statuts, la publication d'auteurs grecs et latins. La France n'avait pas à cet égard son autonomie. Les anciennes collections étaient en voie d'épuisement ou étaient trop savantes pour toucher un large public. La dépendance de l'extérieur, surtout de l'Allemagne, était un défi qu'il fallait relever. Le projet était donc au départ à la fois scientifique, culturel et national. Le premier président fut Maurice Croiset, avec deux vice-présidents, Louis Havet et Paul Girard. Le premier secrétaire général fut Paul Mazon, assisté de deux secrétaires adjoints, Louis Baudin et Alfred Ernoux. Deuxième acte, la fondation de la Société des Belles-Lettres. Faute d'une maison d'édition accueillante, il fallut en créer une de toutes pièces en 1919, avec l'aide de quelques industriels français, autour d'Émile Lafuma, Raoul Bagnaud de Puchesse, Émile Larnaud, qui permit la constitution d'une société anonyme au capital de 400 000 francs pour réaliser la finalité de l'association avec d'éventuels élargissements. La dénomination légale fut d'abord Société des Belles-Lettres pour le développement de la culture classique, puis Société d'édition des Belles-Lettres. Le maître d'œuvre de cette double entreprise ambitieuse fut Paul Mazon, qui fut à la fois secrétaire général de l'association, directeur de la collection des universités de France et président du conseil d'administration de la Société des Belles-Lettres. Troisième acte, le début de la collection des universités de France, on en a déjà parlé. 3 ans à peine après la fondation de l'association, en 1920, apparaissent les premières éditions, en grec, le tome 1 des œuvres complètes de Platon, avec 5 dialogues de jeunesse édité et traduit par Maurice Croiset, le président de l'association. En latin, les premiers livres du De Natura de Lucrèce, par le secrétaire adjoint de l'association qui était alors professeur à la faculté des lettres de Lille, Alfred Ernoux. Quelques mois plus tard, le secrétaire général Paul Mazon donne à son tour le tome 1 du Théâtre d'Eschyle. Commencé en 1920, cette collection comprend 2 séries, la série grecque et la série latine, qui totalise actuellement plus de 900 volumes, la série latine ayant dépassé les 400 volumes et la série grecque les 500. Voilà donc l'histoire officielle telle qu'on la connaissait avant la redécouverte des lettres. Elle n'est pas fausse. Ces lettres qui datent de 1916 et 1917 n'apporte évidemment aucun élément nouveau sur les actes 2 et 3, car elles sont antérieures à l'existence de la maison d'édition et des premières parutions. Mais concernant le premier acte, elles apportent d'abord des éléments nouveaux sur ce que l'on pourrait appeler la proto-histoire, c'est-à-dire sur la période antérieure à l'Assemblée constituante du dimanche 8 juillet 1917, et aussi sur le déroulement de cette Assemblée générale et sur les moments qui ont suivi. Elles apportent surtout des informations sur les hommes qui ont joué un grand rôle lors de la conception et de la mise en œuvre. Elles font prendre aussi conscience des grands problèmes qu'il fallait résoudre, dont les deux principaux concernent l'existence ou non d'une traduction et la recherche d'un éditeur. J'ai déjà eu l'occasion de présenter cette année même à l'Académie des inscriptions et belles-lettres les premières conclusions que je ne reprendrai pas ici dans le détail. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est apporter une pierre nouvelle en montrant le rôle qu'ont joué les Bordelais dans cette entreprise que l'on croyait essentiellement parisienne. Auparavant, il me faut présenter brièvement les deux dossiers de lettres, ce qui me permettra de dégager les trois personnalités parisiennes qui ont joué un rôle actif lors de la formation de l'association Guillaume Budé. Le premier dossier est le dossier de Paul Girard. Paul Girard, 1852-1922, professeur de langue et littérature grecque à la Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, était connu dans l'histoire officielle, comme nous venons de le voir, en tant que second vice-président du premier bureau de l'association Guillaume Budé. Grâce au dossier de 148 lettres qu'il a reçu entre le 9 mai 1916 et le 18 août 1917, on découvre le rôle éminent qu'il a eu. Il fut en réalité le promoteur du projet qu'il a entrepris en demandant à Maurice Croiset, titulaire de la chaire de langue et littérature grecque et administrateur du Collège de France, d'en être le premier responsable. Le deuxième dossier commence plus tard, à partir du 20 février 1917. Il fait entrer un troisième personnage en scène, Georges d'Almeida, 1866-1932, que l'histoire officielle ne connaissait pas. D'Almeida, helléniste, était à ce moment-là professeur de lycée à Paris, mais aussi secrétaire adjoint de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France. Le dossier d'Almeida comprend des lettres envoyées à d'Almeida. Mais ce qui nous permet de comprendre la raison d'être de ces lettres est un document imprimé de toute première importance situé en tête du dossier qui avait été oublié par l'histoire officielle. C'est ce que j'appellerai l'appel du 24 février 1917. Véronique en a parlé tout à l'heure, mais j'ai regardé la référence, ça venait des miscellanéi, c'est-à-dire de ce petit volume qui n'a pas été diffusé et qui était uniquement pour les membres de...
Usage interne.
usage interne pour l'association. C'était
les belles-lettres.
Donc c'est ce que j'appellerai l'appel du 24 février 1917. Il s'agit de la lettre d'appel à adhésion pour constituer une association afin de publier une collection d'auteurs grecs et latins. Il est précisé dans la lettre imprimée que les adhésions doivent être envoyées à M. d'Almeida, 123 rue de la Tour, Paris 16e. Du même coup, on comprend la nature du dossier d'Almeida. Ce sont toutes les lettres qu'il a reçues quand il fut chargé de collecter les adhésions pour la formation de ce qui deviendra l'association Guillaume Budé. On avait perdu la trace de cet appel, qui non seulement donne des indications sur la genèse du projet, une réunion au Collège de France dès le 19 novembre 1916, sur la forme même de l'édition envisagée, texte grec ou latin, accompagné d'un apparat critique très simple, de courtes notices, d'une annotation réduite au strict nécessaire, avec traduction. Et enfin, sur l'existence d'une commission chargée d'étudier les moyens d'exécution. Pourtant, cet appel marque un moment décisif de la proto-histoire, le moment où l'on passe du projet à sa réalisation, de la préparation dans le secret à la diffusion publique. Les lettres de ces deux dossiers qui se complètent permettent de préciser les rôles des trois agents de la campagne. Paul Girard est le directeur de campagne qui s'occupe de la commande des circulaires et dirige ce que l'on a appelé à ce moment-là la propagande, le mot n'ayant pas encore de connotation négative. Girard s'entend avec d'Almeida, qui suit ses instructions très détaillées et partage avec lui la tâche de diffuser ce que j'ai appelé l'appel, mais qui est appelé par eux la circulaire. Quant à Maurice Croiset, c'est le responsable du projet qui, depuis son bureau du Collège de France, donne des conseils et que Paul Girard consulte pour les décisions importantes. Dans cette période capitale de diffusion et de réception des adhésions, qui va depuis le 24 février 1917 jusqu'à l'Assemblée générale constitutive du 8 juillet 1917, ces trois principaux acteurs déployèrent un zèle étonnant. En particulier, Paul Girard ne cessa d'écrire à de nombreux correspondants bénévoles, à Paris ou en province, dont il avait scrupuleusement conservé et classé les réponses, soit pour obtenir des listes afin de diffuser la circulaire, soit pour qu'ils la diffusent eux-mêmes, soit pour leur demander leur avis sur l'entreprise. Ainsi défilent dans le dossier Girard les lettres de bien des latinistes et hellénistes des universités de province. Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nancy, Poitiers, et plus rarement des recteurs d'académie dont le pouvoir était grand puisqu'ils présidaient les conseils d'université. Nous n'avons malheureusement pas conservé les lettres que Girard leur avait envoyées. Il n'avait pas eu le temps de faire de double de ces lettres. J'ai cité Bordeaux en tête des universités de province, non seulement parce que les Bordelais viennent en tête dans l'ordre alphabétique, mais parce qu'ils réagirent avec une promptitude et une efficacité exemplaires et revendiquèrent même la primauté du projet. C'est ici que j'aborde l'essentiel de mon sujet. Deux Bordelais se détachent d'abord dans la liste des enseignants de la faculté des lettres. Ce sont deux professeurs qui apparaissent le plus souvent par le nombre des lettres dans les deux dossiers. Paul Masqueret, 1862-1931, professeur de littérature grecque, et Georges Radet, 1859-1941, professeur d'histoire ancienne et doyen de la faculté des lettres. En tout, une dizaine de lettres chacun dans les deux dossiers. On verra apparaître aussi un troisième professeur, le professeur de latin Henri de la Ville de Miremont, 1858-1924. Nous n'avons conservé que quatre lettres de ce dernier, mais il retiendra tout particulièrement notre attention parce qu'il n'était pas seulement professeur, mais aussi l'adjoint du maire de Bordeaux. Ces trois professeurs firent toute leur carrière à l'Université de Bordeaux. Toutefois, le Bordelais, dans tous les sens du terme, était Henri de la Ville de Miremont, car c'est le seul qui naquit à Bordeaux. J'évoquerai aussi en passant une lettre d'un quatrième Bordelais, le recteur d'académie de l'époque, Tamin. Trois de ces quatre grands personnages sont encore présents dans la mémoire des Bordelais, car ils ont laissé leur nom dans la ville de Bordeaux. Il existe deux grandes rues, une rue du recteur Tamin, dans le quartier de la Bastide, et une rue du doyen Radet dans le quartier Nansouty. Il est vrai qu'ils sont surtout connus par le prix moyen du mètre carré dans leur rue, et à ce petit jeu, la hiérarchie sociale est inversée, car le doyen Radet, avec 3098 euros le mètre carré, bat le recteur Tamin avec 2895 euros le mètre carré. Le recteur Tamin peut toutefois prendre sa revanche car il possède la trésorerie de Bordeaux-Est. La rue de la ville de Miremont, Miremont est plus modeste, mais elle est magnifique. C'est l'ancienne rue des Tanneries. Revenons à nos lettres bordelaises. Avant même la publication de l'appel du 24 février 1917, Paul Girard avait écrit à Masqueret pour lui demander les noms et les adresses des professeurs de la faculté des lettres. Dans une lettre du 9 février 1917, Masqueret lui répond en lui donnant une liste très complète. C'est un document fort précieux donnant les noms et les adresses des professeurs et du bibliothécaire de la faculté des lettres, mais aussi de la faculté de droit, ainsi que du recteur Tamin. Et Masqueret déclare « J'attends la circulaire que vous m'annoncez et qui définit le but que nous voulons atteindre. Il n'y a pas de doute possible. Bien conçue, fermement dirigée, cette société réussira parce qu'elle est de plus en plus indispensable. Et j'espère bien qu'après la guerre, tous ceux en France qui lisent encore du grec laisseront Teubner à ses loisirs. Quelques jours après, c'est au tour du doyen Radet d'envoyer une lettre très aimable à Paul Girard le 14 février, dont voici le début. « Mon cher camarade, je suis tout acquis à votre œuvre. Vous pouvez me compter d'ores et déjà comme membre de la future société. Quant à votre circulaire, nous serons très heureux de la publier dans la Revue des études anciennes, ainsi que toutes les notes complémentaires qui nous paraîtront de nature à l'éclairer par la suite. Georges Radet dirigeait la Revue des études anciennes depuis sa fondation en 1899 et il en restera le directeur jusqu'en 1940. La revue continue actuellement une brillante carrière couvrant le champ entier des études anciennes consacrées au monde grec et romain. C'est encore l'un des points forts de l'Antiquité à Bordeaux. La revue avait en 1917 18 ans d'existence. Dans le paysage érudit de la France sur l'Antiquité, cette revue créée en province venait renforcer les deux revues parisiennes, celle des études grecques en France et celle de philologie, qui avaient un spectre moins large. Ajoutons que la revue des études latines n'existait pas encore, elle ne fut créée qu'en 1923. Avec son offre, Georges Radet fournissait une belle tribune au nouveau projet. Dans la suite de sa lettre, Georges Radet donne à Paul Girard des conseils et des informations. En attendant, adressez la circulaire à ta main, ce sera très bien. Envoyez-moi aussi une trentaine d'exemplaires, je les distribuerai en tâchant d'obtenir l'adhésion des destinataires. Cela vaudra mieux que de rédiger des listes qui porteraient moins. Masqueret agira de son côté, ou plutôt nous nous concerterons ensemble afin d'utiliser au mieux le lot de prospectus. On appréciera le talent d'organisateur du doyen et sa disponibilité pour aider à la réussite du projet. Alors que Masqueret s'était contenté de fournir une liste de noms et d'adresses, Radet prend les choses en main, se charge de la distribution des exemplaires qu'il fera en accord avec Masqueret et demande à Girard d'adresser lui-même un exemplaire au recteur Tamin. Ces lettres permettent aussi de découvrir les hommes dans leur intimité. La lettre de Radet à Paul Girard, vous l'avez remarqué, commence par « Mon cher camarade ». Ils appartiennent au même réseau. Le réseau est double, sinon triple. Ils sont tous deux anciens élèves de l'École normale supérieure et anciens membres de l'École française d'Athènes. Ils sont aussi partiellement reliés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'un, Paul Girard, est membre de l'Académie, l'autre, Georges Radet, est correspondant de l'Académie. Ce titre ne laissait pas Georges Radet indifférent, car il apparaît sur sa carte de visite qui se trouve conservée dans l'un des deux dossiers. Elle se présente ainsi. Georges Radet, doyen de la faculté des lettres, correspondant de l'Institut, 9 bis rue de Chevreuse, Bordeaux. On doit ajouter très probablement une amitié sincère entre les deux savants. Aussi Radet donne-t-il dans sa lettre des indications personnelles, même si elles ne sont pas totalement inutiles, car elles sont justifiées par un changement d'adresse provisoire. Je cite. Le ministre, venant de nous allouer un congé du 19 au 22 mars, mes conférences de mercredi et de jeudi tombent. J'en profite pour partir vendredi soir, après la classe de première supérieure que je fais bénévolement au lycée. J'ai en effet besoin de changer d'air, ayant été fort souffrant pendant près de 2 mois d'une mauvaise grippe qui s'est portée sur la vessie et a déterminé une cystite aiguë. Voici mon adresse, à dater de samedi prochain, 6 rue du 14 juillet, Saint-Jean-de-Luz. J'espère, mon cher camarade, que tout va bien pour vous et les vôtres. Vœux affectueux et souvenirs de votre très cordialement dévoué Georges Radet. Depuis Saint-Jean-de-Luz, Radet envoie une carte postale le 19 février à Paul Girard, qui lui avait écrit pour lui annoncer l'envoi à Bordeaux des prospectus et lui donner des nouvelles de sa famille. Cette carte commence par les affaires et se termine, elle aussi, par des informations plus personnelles. Il ressort que tout est prêt à Bordeaux pour recevoir l'appel, pour l'insérer dans le numéro de la revue des études anciennes qui est composé mais non paginé. Et pour les informations personnelles, Georges Radet parle avec délicatesse des fils de son correspondant qui apparemment sont au front. Je suis heureux des bonnes nouvelles que vous me donnez de vos fils, un souvenir particulièrement amical à celui d'entre eux que j'ai le plaisir de connaître. Et il parle avec élégance de lui-même. Ici, j'ai trouvé le vent d'ouest, mais le soleil brille entre les grains et c'est de l'air pur que je respire. Il achèvera de me désintoxiquer. À vous, mon cher camarade, de tout cœur, Georges Radet. Le soleil brille et pourtant un grain va se produire. 4 jours après l'appel du 24 février 1917, alors que les énergies parisiennes étaient mobilisées pour la diffusion de l'entreprise, Paul Girard reçoit une lettre de Georges Radet, toujours adressée à son cher camarade. Voici la première phrase de la lettre. « J'ai commencé la propagande pour la Société des textes classiques. Non seulement Radet apporte 3 adhésions, dont celle du doyen de la faculté de droit, mais il signale, je cite, « Hier, sur la proposition du recteur, le conseil de l'université a voté son adhésion comme membre fondateur. » Et il termine la première partie de sa lettre par une note d'espoir, « La campagne doit marcher. » On ne peut qu'admirer la rapidité avec laquelle les Bordelais ont agi avec efficacité. Le même jour, Girard recevait une lettre du recteur Tamin qui lui annonce officiellement que lors de la réunion du conseil d'université qu'il a présidé et auquel participaient Radet et Masqueret, il a proposé et obtenu que l'université de Bordeaux adhère comme membre fondateur, c'était 200 francs. Tout semble donc baigné dans l'huile. Mais voici la seconde partie de la lettre de Georges Radet que je lis en entier car elle apporte un bémol. Je dois vous signaler cependant un point. Parmi les signataires du prospectus ne figure aucun nom de provincial. La chose a été remarquée. Il me semble que le nom de Masqueret eût été à sa place parmi les vôtres et eût prévenu toute objection. Je ne doute pas que lors de la constitution définitive de la société, une part normale ne soit faite dans la direction aux universités régionales, mais il eût été équitable et habile de n'avoir pas au début un point de départ exclusivement parisien, d'autant plus, comme vous êtes le premier à le proclamer, que Bordeaux a dès l'origine fait ses efforts pour lancer le projet. Pratiquons là aussi l'union sacrée et n'imitons pas Bruno qui, apprenant le succès et la notoriété de notre bulletin hispanique, s'écriait « Tiens, mais nous allons faire cela à Paris ». Je vous parle ici, proprio motu, en homme qui désire voir l'œuvre aboutir, bien cordialement à vous, Georges Radet. Que s'était-il passé? L'appel du 24 février que j'ai retrouvé en tête du dossier d'Almeida, et qui, à ma connaissance, est un document unique, est une lettre comportant 12 signataires sur 2 colonnes, 6 noms d'hellénistes et 6 noms de latinistes. Or, tous ces noms sont des Parisiens. Il n'y a pas de provinciaux. C'est donc le document original qui a fait l'objet d'un premier envoi, celui qu'a reçu Georges Radet et qui a déclenché sa surprise. Sa lettre entraîna immédiatement chez les Parisiens un processus que l'on peut suivre dans plusieurs lettres du début de mars appartenant aux 2 dossiers. 2 signataires supplémentaires de l'appel furent choisis parmi les provinciaux, l'helléniste Masqueret de Bordeaux et le latiniste Fabien de Lyon. C'est une idée de Girard, mais elle avait reçu l'aval de Maurice Croiset. Girard écrivit pour avoir l'acceptation des 2 nouveaux signataires. La réponse de Masqueret fut assez froide et frise, à mon avis, l'insolence. Il est bien entendu, n'est-ce pas, que c'est la France entière, que ce sont toutes nos universités qui vont se mettre à la besogne sous la direction effective de Paris. Soumettez, je vous prie, ces idées à Maurice Croiset, qui les approuvera, j'en suis sûr. Après une telle lettre, on saisit l'importance historique de l'appellation de collection des universités de France qui vit le jour pendant la période de l'Union sacrée qui ne fut pas au départ sans fissure. Après avoir reçu les 2 acceptations, Girard procéda alors à un nouveau tirage de l'appel avec 14 signataires au lieu de 12. C'est ce nouveau tirage qui fut publié aussi bien dans la revue des études grecques que dans la revue des études anciennes. Ainsi, l'incident entre Paris et la province, aurait sombré dans l'oubli, s'il n'en avait pas retrouvé ces deux dossiers de lettres conservant un exemplaire de la première version de l'appel qui présentait uniquement des signatures parisiennes. Pourquoi la réaction des Bordelais a-t-elle été aussi vive ? C'est parce qu'ils estimaient être les premiers à avoir eu l'idée de la collection des auteurs grecs et latins. Et l'on ne peut pas leur donner tort. Ils avaient en effet publié dès 1915, dans la Revue des études anciennes, une sorte de manifeste en trois parties, signé respectivement par Masqueret, Julian, Radet, sur la nécessité de faire en France des éditions d'auteurs grecs et latins pour échapper aux éditions allemandes qui inondaient le marché français et pour réaliser l'union en faisant un consortium des éditeurs français et une société de souscripteurs en relation avec cette fédération. C'est à ce manifeste que Georges Radet pense lorsqu'il dit dans sa lettre à Girard « Comme vous êtes le premier à le proclamer, Bordeaux a dès l'origine fait ses efforts pour lancer le projet. » C'est du reste un argument que Georges Radet a employé pour obtenir des adhésions à Bordeaux. Nous avons en effet dans le dossier d'Almeida la carte que Radet a envoyée à un de ses collègues du nom de Rocheblanc pour lui transmettre, je cite, un prospectus relatif à la question dont nous avons pris l'initiative dans la Revue des études anciennes. Sur cette question de la primauté de Bordeaux, on peut faire entrer en scène le troisième acteur annoncé, le professeur de latin Henri de la Ville de Miremont, 1858-1924, qui, dans la lettre où il envoie son adhésion à d'Almeida, le 19 mars 1917, déclare « Mon cher d'Almeida, le doyen me communique la circulaire de votre société en formation et je m'empresse de vous envoyer mon adhésion, d'autant plus volontiers que l'idée que vous allez réaliser est une idée bordelaise qui fut lancée il y a bientôt 2 ans dans le manifeste de Julian Masqueret-Radet, publié par la Revue des études anciennes de juillet 1915. Notre idée nous revient de Paris, améliorée et mûrie, comme jadis le vin de Médoc revenait des Indes, bonifié par la traversée. » La formulation est magnifique pour clore par l'humour ce débat entre Paris et Bordeaux sur la primauté de l'idée de la collection d'auteurs grecs et latins. Ce troisième acteur bordelais a écrit moins de lettres que les deux précédents, mais elles sont longues et ne manquent pas d'intérêt, car de la Ville de Miremont était non seulement professeur de latin, mais aussi adjoint au maire de Bordeaux. Grâce à ce poste, il a réussi un tour de force encore plus remarquable que celui de Radet. Le doyen Radet, nous l'avons vu, avait fait obtenir dès les premiers jours de l'appel l'adhésion du recteur de l'Académie comme membre fondateur. L'adjoint au maire, lui, quelques mois plus tard, au moment où l'Assemblée générale fondatrice allait se réunir à Paris, réussit à obtenir l'adhésion du maire de Bordeaux, Charles Gruet, dont le souvenir est conservé à Bordeaux par la charmante petite place Charles Gruet, dans la rue Fondaudège, avec la fontaine de la Naïade. Henri de la Ville de Miremont annonce son exploit dans une lettre du 4 juillet 1917 à d'Almeida. « Depuis hier que j'ai reçu les documents concernant la société en formation, j'ai agi pour Budé. D'abord, en remettant le lot des documents à Gruet, maire de Bordeaux, en lui faisant voir que sur la liste, il n'y a aucun maire des grandes villes de France, pas même Hériot, maire de Lyon. Je vous ai recruté un adhérent. » Et il ajoute un détail piquant. « Je précipite les choses parce qu'il me reste de l'argent sur le crédit des bourses d'agrégation sans emploi et que bientôt tous les crédits sans emploi étant absorbés par virement, il ne me restera rien. » Emporté par son enthousiasme, il demande à d'Almeida un nouveau lot de documents pour se transformer en sergent recruteur dans le commerce. Et il poursuit. La race des Hochards n'a pas disparu de Bordeaux. En jouant d'Ozone, de Montaigne, de Vinet, etc., on aura des marchands bordelois, hellénistes et latinistes payants. C'est à l'usage de cela que la traduction française est indispensable, car je suppose qu'en échange de leurs 10 livres tournois annuels, Budé leur donnera quelques éditions. Toutes les allusions de cette lettre ne sont pas évidentes pour les non-initiés, en particulier Polydore Hochard, né en 1831, qui venait de mourir en 1916 était un Bordelais à la fois armateur et érudit. Il était agrégé des lettres et avait publié des ouvrages sur la littérature latine sous le pseudonyme de H. Dagbert. On peut lire grâce à Internet, par l'Open Library, son Sénèque ou la mort d'Agrippine, qu'il avait publié en 1884. Des trois noms que Henri de la Ville de Miremont veut citer pour éveiller l'intérêt des marchands bordelais, Élie Vinet, humaniste du XVIe siècle, recteur du Collège de Guyenne, ne ferait probablement plus recette de nos jours. Mais Ozone et Montaigne restent plus d'actualité, puisque l'université de Bordeaux III s'appelle Michel de Montaigne, et que la grande UMR 5607 de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge s'appelle maintenant le Centre Ozonius. Le poète Ozone reste une des gloires sûres de Bordeaux, immortalisée par son œuvre, que malheureusement les latinistes n'ont pas encore publiée dans la collection Ludé. Alors que l'édition Teubner a paru dès 1886, Horesco Reference. Ce n'est pas en tout cas à Henri de la Ville de Miremont que l'on peut reprocher de ne pas avoir contribué à l'édition et à la traduction d'Ozone. Il avait édité et traduit dès 1889 à Bordeaux, chez l'éditeur Gounouillou, l'édition critique avec traduction et commentaire du poème le plus célèbre d'Ozone, La Moselle, que l'on peut lire sur le site Gallica. C'est une édition major, monumentale de haute volée, comprenant une longue introduction sur l'histoire du texte et des éditions, 270 pages, c'est presque comme les budés modernes. Le texte accompagné d'un apparat critique et d'une traduction française est suivi d'un commentaire de 141 pages. J'ai l'impression que cette édition est injustement oubliée. C'était l'une de ses thèses. Or, dans une lettre du dossier du 23 avril 1917, où il expose à Girard sa conception sur les nouvelles éditions à venir, il y fait allusion pour justifier la nécessité de la traduction. Ce n'est pas seulement pour les marchands bordelais. Voici ce qu'il en dit. « La traduction, je la juge indispensable. Avant de faire mes thèses sur la Moselle d'Ozone et les argonautiques d'Apollonios de Rhodes, j'ai commencé par traduire la Moselle et les argonautiques. C'est la discipline que j'ai demandé à mes candidats au doctorat des lettres. » Il donne des exemples précis. Si les éditeurs allemands comprenaient en le traduisant le texte qu'ils veulent établir, ils s'épargneraient bien des corrections inadmissibles. Mais ces critiques faites aux Allemands sur la traduction ne l'empêchent pas de reconnaître leur mérite sur la paracritique. Il poursuit en effet. La paracritique, c'est le mérite des éditions allemandes, je le crois très nécessaire, ainsi qu'une introduction donnant l'histoire du texte. De mon temps, on arrivait à l'école normale, il a intégré en 1877, on arrivait à l'école normale sans se douter de l'existence des manuscrits. Je me rappelle, il y a plus de 25 ans, un avocat brillant, élève du lycée de Bordeaux, qui me parlait d'une thèse de doctorat en droit romain, qui ne se doutait pas des variantes du texte de Cicéron, et qui tomba des nues quand je lui montrais la paracritique d'un Cicéron Teubner. Par ses positions sensées et mesurées, de la Ville de Miremont a le courage de reconnaître des mérites à l'érudition allemande, il était à cet égard plus mesuré que les critiques sans nuance de Masqueret qui déclarait dans son manifeste de 1915, où il parle des Boches, « Il faut nous débarrasser le plus possible de ces gens-là ». Mais cela n'exclut pas que de la Ville de Miremont fut tout entier occupé par la guerre en tant qu'adjoint au maire. Dans sa même lettre à Girard, avant de parler des éditions, il déclare « L'isolement qui vient des occupations de guerre fait que je ne vois plus depuis longtemps que ceux de mes collègues qui viennent dans mon cabinet à la mairie pour les questions de distribution de secours aux réfugiés ou de vêtements à faire confectionner dans les ateliers des écoles pour les pupilles de la guerre. » Et dans une lettre précédente à Dalméda, avec lequel il semblait plus lié, peut-être parce que Dalméda était né à Bordeaux, après avoir noté qu'il avait passé ses vacances de Pâques à mettre au net une édition d'un discours de Cicéron qui pourrait éventuellement paraître dans le nouveau projet de collection, il donne des nouvelles plus personnelles sur lui, sur sa femme et sur sa famille dans les conditions difficiles de la guerre. Vous me permettrez de terminer par là, car j'ai voulu aujourd'hui privilégier les hommes sur les institutions. Voici un long passage de sa lettre. « Depuis le 1er avril 1914, je n'ai pas pu m'absenter de la mairie. D'ailleurs, je suis maintenant absolument infirme et incapable de toute marche. Des formations cornées se développent sous mes pieds et m'empêchent de tenir debout. Quand les coricides, les raclages, les bains de pieds très chauds avec ingrédients divers les ont fait disparaître, au bout de 2 ou 3 jours de marche, tout est à recommencer et je suis réduit à me traîner jusqu'au coin de la Croix-Blanche où j'attends le tramway complet qui m'amène soit à la faculté, soit à la mairie. Je suis le moins malade de la maison. Ma femme, qui a été très ébranlée au physique comme au moral, a dû se résigner à subir par prudence une grosse opération de matrice qu'il a retenue novembre et décembre dans une clinique et qu'il a laissée très faible. Nous avons avec nous, depuis le 8 août 1914, ma fille et ses 3 enfants, 4 depuis le 6 juin 1916. Mon gendre, dégoûté de l'intendance où il était mobilisé, s'est fait mettre dans l'armée active. Il est au front depuis décembre 14. Son régiment, le 338e, a beaucoup souffert à la prise de Pressoir, où il a lui-même reçu 2 balles dans son casque. Depuis le commencement du mois, c'est le mois d'avril 1917, il est officier de triage, chargé de faire le départ dans les territoires récupérés entre les brebis galeuses et le troupeau lamentable des braves gens ruinés et épuisés qu'il faut évacuer à l'intérieur. Cet hiver nous a été très pénible. Les 2 petites filles aînées, 1910-1911, ont eu la grippe et la rougeole. Le petit garçon, 1914, guérit à peine d'une longue otite. L'aîné commence à avoir la coqueluche que les autres vont prendre apparemment. Il n'y a que la toute petite qui était jusqu'ici à l'abri. C'est l'un des tableaux les plus précis sur la vie d'un savant qui reste un homme d'action au service des autres, malgré ses infirmités, et qui fait preuve de stoïcisme et aussi de beaucoup de discrétion lorsqu'il parle de sa femme, laquelle a été très ébranlée au physique comme au moral. Il ne dit pas pourquoi, mais on le sait. Cette femme avait publié sous le nom de Madame Henri de la ville de Miremont des contes de Noël, dont le premier était dédié à son fils Jean. Or, ce fils, actuellement plus connu que le père par les Bordelais, par son roman « Les dimanches de Jean Désert » et surtout ses poésies « L'horizon chimérique », ce fils, dis-je, il venait de le perdre sur le front en 1914. Il existe maintenant à Bordeaux, place Saint-Augustin, une bibliothèque Jean de la ville de Miremont. Il a sans doute les œuvres poétiques du fils. Je suis né dans un port et depuis mon enfance, j'ai vu passer par là des pays bien divers. Attentif à la brise et toujours en partance, mon cœur n'a jamais pris le chemin de la mer. Mais cette bibliothèque a-t-elle les éditions Budet où son père a édité plusieurs tomes des discours de Cicéron ? Il faudrait réunir le souvenir du fils et du père. Je laisserai le dernier mot au père, toujours dans la même lettre. Depuis plus de 30 ans que les hasards des programmes de licence et d'agrégation me font préparer à fond telle ou telle œuvre de Cicéron, j'ai établi le texte commenté de plusieurs. Voilà un bel exemple à suivre. C'est un appel à de nouveaux collaborateurs pour notre collection des universités de France à Bordeaux ou ailleurs. Merci.